France, c'est assez amusant. On parle de la transition numérique comme si c'était quelque chose comme la transition climatique, enfin, quelque chose qu'on subit, quoi. C'est pas, il n'y a à personne l'idée dans la sphère publique de dire il nous faut une politique industrielle pour le numérique. Une politique industrielle pour le numérique, comme il en a fallu une pour le TGV ou pour le Concorde. Ça ne vient pas à l'esprit, visiblement, de la puissance publique en France. Donc, il ne faut surtout pas attendre que ça vienne de l'Europe, hein, parce que le TGV et le Concorde, c'est pas l'Europe qui, je rappelle, c'est pas l'Europe qui l'ont fait. Hein.
Bienvenue dans le troisième épisode de cette série consacrée aux entrepreneurs de l'univers des crypto-monnaies. On utilise tous leurs services, on connaît tous leurs créations, mais qui sont ces femmes et ces hommes qui bâtissent le monde de demain ? À travers ces 4 épisodes, nous partirons à la rencontre de ces entrepreneurs à succès. Pierre, merci d'avoir accepté notre invitation. Je te laisse te présenter et nous dire comment tu es arrivé dans l'écosystème des crypto-monnaies.
Je suis Pierre Noisa, donc fondateur de Paymium. C'est une société que j'ai démarrée en 2011. Auparavant, j'ai un parcours d'ingénieur. Je suis formé à Polytechnique et Télécom. Et j'ai démarré assez rapidement ma carrière sur le sujet, je dirais, de la cryptographie appliquée, puisque j'ai été amené à travailler sur des projets au début de ma carrière de télévision numérique payante. C'était les débuts, en fait, du cryptage de la télévision et donc la première application à grande échelle de la cryptographie. C'était aussi, finalement, les années 90, les années où la crypto a vraiment décollé en termes de technologique et d'application. Donc, je me suis intéressé à ce secteur depuis de longues dates et j'ai eu la chance donc d'être en mode veille technologique quand Bitcoin est sorti, dans les années 2008-2009. Donc, j'ai lu le white paper en 2008 et j'ai été évidemment, c'était un peu découvrir la réponse à une question quand même que beaucoup se posaient. En tout cas, moi, je faisais partie des gens qui se demandaient comment on pourrait disrupter, changer le modèle, en tout cas, de centralisation des banques, en particulier des intermédiaires financiers. Donc, c'est vrai que c'était une sorte de révélation, Bitcoin. Et cela étant, en lisant le white paper, on ne pouvait pas honnêtement prédire que tout allait marcher. J'ai juste eu le sentiment déjà très fort et très satisfaisant que ça pouvait marcher. Et ensuite, à partir de 2009, 2010 et je dirais 2011, en 2011, c'était devenu absolument évident pour tout le monde que ça marchait, en fait, que le réseau fonctionnait, que le logiciel était fiable, que ça progressait au fil des releases du logiciel. Donc, il y a eu toute une période, effectivement, d'enthousiasme. Et en 2011, je me suis dit, faut vraiment que je le fasse savoir à tout le monde maintenant qu'il est possible d'en acheter sur des plateformes, que ça commence à être liquide. En fait, dès 2010, mais on peut dire qu'en 2011, c'était devenu évident. Je peux en parler au maximum de gens. Donc, j'ai commencé à en parler autour de moi à partir de 2011 et notamment lorsque j'ai fondé Paymium, à mon associé pour le convaincre de focaliser Paymium sur la technologie Bitcoin.
En 2010, quand tu vas voir ton associé après avoir lu le white paper de Bitcoin, comment t'arrives à le convaincre de monter une boîte autour de ce jeton numérique de parking dont on entend à peine parler ?
Ça n'a pas été évident. C'est pas une déception, mais c'est je me suis confronté à la difficulté de parler d'une innovation effectivement à des gens qui n'étaient ni dans le secteur de la crypto spécialement, ni spécialement intéressés par la décentralisation des intermédiaires financiers. Effectivement, c'est une double difficulté, parce que l'enthousiasme est dans ce cas-là relativement difficile à faire partager, puisque en plus c'est quand même quelque chose d'assez complexe à expliquer à quelqu'un en termes simples. En tout cas, à l'époque, puisqu'on n'avait pas toute la littérature qu'il y a aujourd'hui, il y a eu beaucoup de pédagogues, je dirais, qui se sont penchés sur la question et qui ont trouvé des formulations des extrêmement utiles pour le pédagogue que je reste. Hein. Je reste moi aussi dans la pédagogie, mais il y en a qui ont eu plus de talent que moi dans ce domaine. Et comme je pense surtout à Andreas Antonopoulos, évidemment, à partir de 2013, et donc qui ont donné des munitions. C'est vrai qu'en 2011, c'était ardu de convaincre quelqu'un. J'ai mis 6 mois à convaincre mon associé, en gros. Hein. Donc, c'est dire que c'était pas forcément immédiat. Et le pire, c'est que j'ai écrit un livre à ce moment-là en me disant il faut que je le mette noir sur blanc parce qu'un livre, ça permet de toucher plus de monde. Donc, j'ai écrit un livre qui était j'avais intitulé le Bitcoin Book à l'époque. Bon, c'était pas forcément un très bon nom, mais c'était le Bitcoin Book, la première version de mon livre que j'ai commencé à diffuser. J'ai même envoyé le manuscrit à des éditeurs en pensant naïvement qu'ils allaient le publier. Et là, j'ai découvert le monde de l'édition et qui est effectivement complètement sclérosé. Donc, j'ai publié après en mode auto-édition, hein, évidemment. C'était la seule solution disponible à l'époque. Hein. Aujourd'hui, on trouve des éditeurs qui éditent des livres sur Bitcoin et les blockchains, mais à l'époque, c'était compliqué. Donc, tout ça, effectivement, a été aussi un apprentissage pour moi, en fait, hein, de la pédagogie et de comment expliquer l'innovation, comment gagner l'adhésion. Moi, encore une fois, je suis un ingénieur, je ne suis pas un marketeur. Donc, on dit le fait que Bitcoin ne soit pas marketé en tant que tel, c'est à la fois un atout et un handicap. En fait, moi, je pense que c'est un atout parce que c'est ce qui fait toute sa crédibilité, en fait. Mais c'est aussi un handicap en termes qu'il a fallu plus de temps pour que des gens comme toi, Valentin, et Andreas Antonopoulos pour les anglophones, mais des gens qui sont dans la communication s'intéressent à Bitcoin et commencent donc à donner davantage d'outils et davantage de visibilité à Bitcoin. Mais c'est vrai que cette période me laisse un souvenir un peu, c'était par moments un peu désespérant en fait. Hein, pour prendre une analogie, c'est comme si quelqu'un avait découvert, je sais pas moi, un traitement contre le cancer et était incapable de le faire savoir aux gens parce que personne n'y croyait. Enfin, ce serait un peu ça, un peu là on résolvait un problème et effectivement les gens n'y croyaient pas parce que c'était trop abstrait et parce que c'était pas leur domaine, quoi.
Convaincre son associé, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. J'ouvre un chapitre sur un sujet qui te tient particulièrement à cœur, l'hypocrisie des banques face à Bitcoin. C'était facile de les convaincre au début ? Et quel rapport ont-elles aujourd'hui avec le monde de la crypto ?
Non, mais clairement, il y a une situation particulière de Bitcoin par rapport aux banques. Et c'est la fin d'un monopole. En fait, Bitcoin signifie pour les banquiers, donc ce que j'appelle moi le réseau euro, au sens large, hein, parce que pour moi, c'est un réseau comme Bitcoin. C'est juste un réseau centralisé qui a plein de défauts, mais c'est un réseau, le réseau euro. Donc, ce réseau est confronté pour la première fois de son existence à la concurrence d'un autre réseau. Donc, naturellement, le réflexe de gens qui ont été dans un monopole pendant autant d'années, c'est une industrie, les services bancaires sont donc largement sclérosés. Et évidemment, en n'étant pas habitué à la concurrence, quand ils la voient arriver, il y a ce phénomène de rejet. Le Crédit Mutuel, effectivement, est un des plus orthodoxes, je dirais, dans le rejet, avec la Banque de France, évidemment, et les déclarations de la Banque de France, qui est aussi une des banques centrales les moins ouvertes sur le sujet. Donc, tout ça ne nous aide pas, effectivement, nous, entrepreneurs en France, dans le domaine des cryptos, parce que ces gens ont du mal ils sont dans le déni de la réalité. La réalité, c'est que leur monopole a disparu. Et comme ce sont eux qui écrivent la loi en matière bancaire, je rappelle que le code monétaire et financier est écrit par des banquiers essentiellement, ou des avocats, des juristes qui travaillent pour eux. Donc, ils font à la fois la loi et ils l'appliquent d'ailleurs avec la supervision bancaire, dont ils ont aussi le monopole, puisque la banque est complètement autorégulée. On demande aux banquiers de se réguler eux-mêmes. Hein. Ce n'est pas des autorités indépendantes avec des usagers des banques, des entreprises qui supervisent les banques. Non, non, ce sont des banquiers qui supervisent les banquiers. Donc, effectivement, ça rend la chose très compliquée pour les entrepreneurs crypto d'établir, je dirais, des passerelles entre le réseau Bitcoin et le réseau euro, puisque on a d'un côté de la passerelle quelqu'un, des gens en tout cas qui veulent scier les pieds de la passerelle, hein, ou les supports de la passerelle. Donc c'est mon expérience à moi d'entrepreneur crypto depuis maintenant 10 ans, donc presque 10 ans. C'est ça, c'est des difficultés inutiles, des combats d'arrière-garde qui font perdre du temps à tout le monde, et surtout, je dirais, aux Français, enfin à ceux qui voudraient investir dans Bitcoin, puisque c'est ça reste quand même compliqué, parce qu'on reçoit des lettres, hein, comme celle dont tu parles, Valentin. Les gens reçoivent des lettres de leur banque totalement anxiogènes. Quand ils allument la radio, ils écoutent le gouverneur de la Banque de France qui a un discours tellement anxiogène aussi sur les cryptos. Donc, je comprends que ceux qui investissent, donc qui font des bonnes affaires, ben, ils ont dû surmonter tout ça. Et la grande majorité des autres, malheureusement, ils en sont détournés. Et évidemment, c'est des plus-values qu'ils ne font pas et qui sont faites dans d'autres pays. Des recettes fiscales, d'ailleurs, en moins pour Bercy. Enfin, tout ça est juste une perte de temps totale, puisque de toute façon, le monopole ayant disparu dans les faits, il devra disparaître en droit. Aussi, le droit va devoir s'adapter à cette situation que les cryptos existent et sont là pour durer. Ça a commencé par Bitcoin. Donc, voilà, c'est ça un peu la situation. Le contexte qui nous est donné est un contexte inutilement compliqué, je dirais. Alors, je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas deux choses. Ce n'est pas forcément très facile ailleurs. C'est juste plus facile dans la plupart des autres pays. Et d'autre part, on est aussi motivé, je dirais, avec les banquiers pour protéger l'usage, le réseau Bitcoin d'un usage à des fins illicites. Hein. Les banquiers, depuis des années, sont censés lutter contre le blanchiment d'argent et autres plaies, donc l'usage illicite de leur réseau, du réseau euro. Ben, les entrepreneurs Bitcoin sont tout aussi motivés, je dirais tout aussi compétents pour empêcher les usages illicites du réseau Bitcoin. Mais c'est vrai que ça reste compliqué en termes de communication avec les banquiers pour des raisons culturelles, donc essentiellement, hein, ce monopole qui existe depuis si longtemps, et puis donc des dirigeants qui n'ont jamais été confrontés à cette réalité, à la réalité de la concurrence qui est celle de tous les autres secteurs économiques.
À titre personnel, quand tu vois aujourd'hui des banques américaines comme JP Morgan changer leur vision sur Bitcoin ou encore PayPal qui propose l'achat de crypto-monnaies, qu'est-ce que tu te dis ?
Alors, il y a la position officielle, effectivement, de la banque et puis il y a ce que les analystes disent, c'est-à-dire les gens qui regardent les marchés sont obligés, eux, d'observer ce qui se passe dans la vraie vie, quoi. Donc là, effectivement, il y a un décalage qui commence à se voir. Ça commence à se voir, à se remarquer entre le discours du CEO, par exemple, de JP Morgan, et les analystes qui produisent des rapports en disant « Attendez, Bitcoin, par rapport à l'or, c'est peut-être intéressant, il faudrait peut-être regarder. » Et on sait tous que s'il y a ne serait-ce qu'une fraction de l'argent investi dans l'or qui se déplace sur Bitcoin, c'est un effet absolument énorme sur le prix du Bitcoin et avec tout ce que ça implique après en termes d'adoption. Donc oui, les analystes dans la banque, il y a quand même, ce sont des grosses organisations et je pense qu'il y a de plus en plus de gens au sein de ces organisations qui sont conscients du potentiel des cryptos, de leurs caractéristiques, de leurs propres, de leur différence, de ce qui fait leur intérêt par rapport au réseau euro. Il dit souvent que l'intérêt de Bitcoin, c'est qu'il est différent de l'euro. Si c'était la même chose, ça ne servirait à rien. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans la banque qui en sont conscients. Par contre, les dirigeants, eux, sont dans une position délicate puisqu'ils sont supervisés donc, par des banquiers centraux qui, eux, alors, sont encore moins dans une logique de concurrence. Ils ont encore plus de mal à admettre la fin du monopole, évidemment. Et ça, effectivement, ce décalage commence à se voir. Je suis d'accord, entre les analystes, la base, je dirais, dans la banque, les gens qui sont sur le terrain et sur les marchés et ceux qui sont dans les bureaux aux étages supérieurs.
Dis-moi si je me trompe, mais il me semble que Paynium est la plus ancienne plateforme d'échange de Bitcoin encore en place, non ?
Alors, le premier en activité, puisqu'il y en a eu deux autres avant nous, qui étaient l'un, même MTGOX, qui a disparu, qui a fait suffisamment parler de lui, je ne vais pas reprendre l'histoire de MTGOX, et BTCE, qui a aussi fait parler de lui et qui a aussi disparu pour des raisons un peu similaires, disons, de mauvais management, on va dire. Et nous, effectivement, on était le numéro 3 et on est toujours là. Donc, on est assez fiers de cette longévité et d'avoir surtout permis à des gens d'adopter Bitcoin très tôt, en fait, dans la courbe d'adoption.
Du coup, comment vous percevez l'arrivée de ces nouveaux géants comme Binance ou Kraken ? Ils sont arrivés après vous, mais totalisent plus de clients et de liquidités, notamment grâce à une politique différente dans les pays où sont basés ces échanges. D'où ma question. On est encore dans le vent en France à cause de la régulation ?
Alors, c'est, je dirais que c'est un choix personnel hein, d'avoir d'être resté en France. Voilà, j'ai pas, moi, j'ai pas eu l'envie, en tout cas, d'aller dans une juridiction effectivement plus favorable aux cryptos pour lancer un exchange. Je pense que l'exchange en France a du sens. On a aujourd'hui une base de clientèle de plus de 100 000 clients. On va sur les 250 000 maintenant. On a je dirais, un historique qui parle pour nous en termes de fiabilité de nos services. Maintenant, ces plateformes étrangères, elles sont dans d'autres juridictions. Elles ont bénéficié effectivement de grosses facilités de la part, je dirais, du secteur financier, notamment le raccordement à des banques hein, pour citer ça, certaines d'entre elles, notamment les plateformes américaines, ont pu se raccorder au réseau bancaire américain de manière privilégiée, je dirais, dès 2013-2014, alors que nous, on se battait pour avoir juste un compte bancaire, eux étaient connectés au réseau ACH, qu'on appelle ACH, qui est un peu l'équivalent du réseau SEPA. Eux, ils étaient connectés, donc ils avaient toutes sortes de facilités pour se développer, sans parler des financements. Certaines plateformes ont levé presque 1 milliard, hein, faut quand même s'en rappeler, pendant que, je le rappelle souvent, nous, on a levé 3 millions, en gros. Donc effectivement, on joue pas dans la même catégorie, ça ne nous empêche pas de continuer, à une autre échelle, certes, mais le problème qui est posé là, c'est effectivement le problème d'une stratégie numérique. En Europe, bon, il est évident que les Américains ont une stratégie vis-à-vis du numérique et qu'en France et en Europe, il n'y a pas de politique industrielle vis-à-vis du numérique. On est encore, en France, c'est assez amusant, on parle de la transition numérique comme si c'était quelque chose comme la transition climatique, enfin, quelque chose qu'on subit. Quoi. C'est pas, il n'y a personne l'idée dans la sphère publique de dire qu'il nous faut une politique industrielle pour le numérique. Une politique industrielle pour le numérique, comme il y en a fallu une pour le TGV ou pour le Concorde. Ça ne vient pas à l'esprit, visiblement, de la puissance publique en France. Donc, il ne faut surtout pas attendre que ça vienne de l'Europe, hein, parce que le TGV et le Concorde, c'est pas l'Europe qui, je rappelle, c'est pas l'Europe qui l'ont fait. Hein. Ça s'est fait en national ou au mieux en bilatéral. Donc je crois que là, il y a une grosse problématique, je dirais, de la transition numérique qui n'est pas du tout particulière aux cryptos. Les cryptos sont pas plus maltraités que d'autres enjeux du numérique, mais effectivement, c'est particulièrement stratégique puisque le fait, par exemple, pour la Banque de France de faire l'impasse sur Bitcoin, ça veut dire que certaines banques centrales, par exemple, vont en accumuler alors que la Banque de France n'en aura aucun. Et à un moment, le bilan de la Banque de France va souffrir de la comparaison avec celui d'autres banques centrales. Mais ça, c'est un problème, je dirais, de rapport de force, enfin de rapport de pouvoir entre le pouvoir politique et le pouvoir bancaire. Hein, et on sait qu'aujourd'hui, on a à peu près la formule la pire, puisqu'on a dit, en gros, on va faire des banques centrales, on va retirer aux États la possibilité de créer de la monnaie, on va créer des banques centrales indépendantes pour qu'il n'y ait pas de pression des politiques sur la création monétaire. Et puis, on s'aperçoit en fait que la création monétaire a lieu quand même, elle n'est même plus contrôlée par les États de manière démocratique, elle est faite de la pire des façons pour alimenter le secteur financier et bancaire et pas directement les citoyens. Et on a donc la pire formule possible aujourd'hui en matière de création monétaire et gérer du gestion du bilan des banques centrales, hein, puisqu'elles sont en train de passer à côté de Bitcoin en tant que réserve, valeur de réserve.
Dans une lettre ouverte intitulée « Stop à l'hypocrisie des banques autour de Bitcoin », tu dis « De fait, il est urgent que le législateur entérine dans la loi la fin du monopole de création monétaire attribué aux seuls établissements de crédit. Il doit reconnaître le caractère libératoire d'un paiement en monnaie décentralisée et doit enfin donner valeur de preuve à une signature électronique enregistrée dans la blockchain publique Bitcoin. » Tu peux développer ?
Oui, alors les trois points que je cite rapidement ne sont pas de même importance. Évidemment, l'histoire de la création monétaire, ça me semble évidemment beaucoup plus important en termes d'impact macroéconomique. Après, il y a effectivement des usages, je dirais, secondaires de Bitcoin, en particulier en termes de réserve de preuve. C'est une réserve de valeur, mais c'est aussi une réserve de preuve pour notamment la signature électronique. Donc effectivement, s'il y avait une politique industrielle pour le numérique, on aurait des projets de signature électronique via la blockchain Bitcoin pour qu'on ait un système ouvert et universel de signatures et de validation, donc des vérifications des signatures. Au lieu de ça, on fait des plateformes. Je crois que la dernière que j'ai vu passer, c'est Archipel, où c'est des grosses sociétés qui se mettent ensemble pour faire un système privatif. On a déjà vu ça tellement de fois dans le numérique, on sait tellement que ça ne marche pas, ce genre d'approche, mais on continue à le faire sur quelque chose d'aussi évident que la signature électronique, où franchement, l'usage de Bitcoin pour ça est évidemment optimal, puisque ça ne coûte rien, c'est un usage marginal d'un réseau qui tourne par ailleurs, dont la sécurité est financée par ailleurs. Donc, il y a vraiment des impasses comme ça qui sont assez incompréhensibles, qui ne s'expliquent que par l'impossibilité pour certains décideurs de juste comprendre ce qui se passe, quoi, de comprendre l'intérêt de Bitcoin et au lieu de le rejeter de manière idéologique, essayer d'en tirer parti pour ce qu'il est et ce qu'il fait, quoi. Donc, effectivement, je parle de la création monétaire, mais j'aime bien aussi rappeler qu'on pourrait utiliser Bitcoin comme système de signature électronique universelle et d'authentification des documents, notamment. J'ai été assez loin dans cette direction en développant une application d'authentification des diplômes. Donc, je sais à peu près de quoi je parle en l'occurrence. Mais il y a vraiment on a l'impression qu'il y a quand même des barrières, je dirais presque idéologiques, à faire tomber pour, encore une fois, reprendre pied avec le réel, quoi. Et je ne suis pas sûr que ce soit que dans le numérique, mais comme c'est mon métier, je peux dire que dans le numérique, ça existe aussi.
Pour recentrer un peu sur ton personnage, es-tu aujourd'hui aussi passionné par Bitcoin qu'au premier jour ?
Ah oui, complètement, parce que c'est une techno qui évolue, je dirais, tous les ans. Il y a une actualité incroyable, même sur Bitcoin, hein, parce que souvent, les gens parlent de nouvelles chaînes en disant on va faire mieux et on va faire mieux, on va lancer une nouvelle blockchain. Bon, évidemment, ce sont des fausses promesses. On peut faire autre chose, mais on ne fera pas mieux. On fait autre chose. On fait des choses qui sont en général plus centralisées. Mais effectivement, il se passe beaucoup de choses. Donc, il y a beaucoup d'initiatives, soit sous la forme de nouveaux coins, de nouvelles chaînes, et surtout sur Bitcoin, bien sûr, des avancées extrêmement intéressantes. Donc, oui, je reste complètement passionné par ce que je fais et complètement enthousiaste, hein, je ne vais pas utiliser d'anglicisme, je continue à être complètement enthousiaste sur le futur de Bitcoin et donc le développement de l'écosystème crypto.
Et en tant que chef d'entreprise, comment tu gères une équipe dans un univers aussi nouveau et porteur que le secteur des crypto-monnaies ?
Ce que je me répète tous les jours et ce que je pense et ce qui est partagé au sein de l'équipe, c'est qu'on a beaucoup de chance. En fait, on a beaucoup de chance de faire ce qu'on fait en ce moment et de le faire chez Paybium en particulier dans notre domaine en tout cas. D'abord parce que c'est une super équipe, très soudée et très enthousiaste. Et on a beaucoup de chance d'être dans ce secteur et d'y être aussi tôt dans la courbe d'adoption, effectivement. Je pense que c'est vrai pour Cryptost aussi. Hein. On a cette chance-là. Donc, je pense qu'il faut s'en réjouir. Je crois que la gratitude par rapport à ce qui nous arrive, c'est quelque chose de très, très important pour être heureux dans la vie. Il faut avoir cette forme de gratitude en se disant, chaque jour, j'ai vraiment de la chance de faire ce que je fais. Voilà. Et c'est... je pense que c'est ça qui nous réunit aussi, hein, bien sûr. Et c'est vrai qu'on a l'impression que ça va pas s'arrêter, quoi, qu'il y a encore pour au moins une dizaine d'années. Moi, j'ai coutume de dire, puisque ça fait moins de 10 ans qu'on est sur le sujet, qu'il y en a largement encore pour 10 ans avant qu'on ait fait le tour, je dirais, des possibilités de Bitcoin et de l'écosystème crypto.
En France, il y a Paynium, donc, Ledger sur un autre registre, d'une certaine manière Tezos et Blockchain Partner pour ne citer que. Tu trouves qu'on est bien armé ?
Alors, on est bien armé au sens qu'on a, je pense, en France, des très bons développeurs. On a une communauté tech très active. On a la chance d'avoir un système de grandes écoles d'ingénieurs qui produit des très bons scientifiques et de très bons développeurs. C'est une chance. J'espère que certains qui veulent tout casser ne vont pas casser ça, en tout cas, parce que ça reste un de nos atouts pour la transition numérique, justement, dont je parlais. Parce que si on avait un plan, bon, on n'a pas de plan, mais si la puissance publique avait un plan, elle pourrait l'exécuter, parce qu'il y a les gens pour le faire. ça, c'est, et ça se voit donc avec ce foisonnement effectivement d'entreprises tech. C'est dommage qu'il y en a qui partent parfois dans des pays limitrophes pour des raisons essentiellement réglementaires ou de tracasseries administratives ou de relations bancaires difficiles. Je pense que c'est dommage et que là, pour le coup, la puissance publique a failli dans son rôle de mettre au pas, cet environnement bancaire, je dirais, puisque la réglementation bancaire est faite par les banquiers, comme je le disais tout à l'heure. Donc, ce qui prouve, d'ailleurs, au passage, ça ne fait que prouver la balance, l'équilibre des pouvoirs n'est plus respecté, puisque le pouvoir politique, la puissance publique doit s'incliner devant le pouvoir bancaire, en fait. C'est ça la réalité aujourd'hui, forcément, puisque dans un monopole, on est dans une relation de négociation qui est évidemment très défavorable. Personne ne peut négocier avec celui qui a le monopole. Donc, c'est le résultat, c'est qu'effectivement, il y a un foisonnement. Il y a malheureusement certains qui choisissent d'aller dans des pays limitrophes. Mais globalement, on a un écosystème qui est je dirais, florissant en France, ça c'est sûr. Et c'est un atout, clairement. Maintenant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le numérique. Il y a un vrai souci de financement des start-up. Elles sont toujours chroniquement sous-financées, de mon point de vue, notamment pour trouver l'argent du marketing, faire savoir ce qu'elles font. On est là toujours à la traîne par rapport aux concurrents anglo-saxons qui, eux, ont des moyens en général bien supérieurs. Mais l'écosystème est foisonnant et ça, c'est très bien. Après, est-ce qu'on interagit beaucoup au sein de cet écosystème? Je pense que culturellement, c'est un écosystème qui est quand même très ouvert sur l'international. C'est du logiciel libre, donc c'est une communauté quand même très ouverte sur Internet, plus que sur des frontières nationales. Donc, on n'a pas forcément plus de contacts, je dirais, avec des startups près de chez nous qu'avec des startups, je dirais, américaines ou dans d'autres régions. Mais c'est toujours bien de pouvoir se réunir quand même. Alors, en ce moment, en plus, c'est compliqué de se réunir. Cette année, en tout cas, c'était un peu perturbé. Mais c'est toujours bien quand on se réunit, effectivement, de voir qu'on a des collègues près de chez soi.
Un mot sur l'actualité. Dans quelques semaines, le PSAN entre en vigueur, amenant une couche supplémentaire de régulation en France. Tu penses que la régulation pourrait amener plus de gens à la crypto? Et que répondrais-tu à Bruno Le Maire qui accuse les crypto-monnaies de financer le terrorisme?
Alors, ce qui va amener le... Il y a plusieurs choses dans ta question, mais ce qui va amener le public dans la crypto, c'est pas la régulation, bien sûr. C'est le fait que les gens vont progressivement découvrir que c'est quelque chose qu'ils peuvent maîtriser, qu'ils peuvent être, comme on dit parfois, leur propre banque avec les cryptos, que s'ils sont une entreprise ou des entrepreneurs ou des milieux associatifs ou autres, ils peuvent même imaginer d'émettre une monnaie pour leurs membres, pour leur communauté. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui va intriguer et qui va amener les gens à adopter les cryptos. La régulation, elle va plutôt être contraignante jusqu'à présent, en tout cas, elle l'a été. La sortie de Bruno Le Maire sur le financement du terrorisme, c'est comme la lutte contre le blanchiment, c'est quelque chose qui nous soucie de toute façon depuis le début. Nous, ça fait 10 ans qu'on prend des précautions, je dirais, par rapport à ces usages illicites. Il n'y a évidemment pas de changement particulier avec l'arrivée de Bitcoin par rapport à cette problématique. Je dirais que les cryptos sont peut-être plus traçables que le cash, donc elles sont plus une solution qu'un problème en fait dans la lutte contre le blanchiment. Donc la sortie de Bruno Le Maire, je pense qu'il avait besoin de dire quelque chose sur le sujet, mais elle était une fois de plus pas forcément très pertinente. En tout cas, voilà, en ce qui concerne l'adoption, la régulation, elle est là pour éviter qu'effectivement il y ait des usages illicites. Pour moi, c'est ça le principal avantage de la régulation, c'est éviter que des gens prospèrent sur des usages illicites, quels qu'ils soient. Donc, c'est un garde-fou qui est nécessaire. Donc, je n'ai pas de problème, je dirais, avec la régulation dans son principe. J'ai un problème dans le fait qu'elle soit confiée à des gens qui sont parfois en conflit d'intérêts, c'est-à-dire à des banquiers qui donc supervisent des banquiers et qui, quand ils supervisent des business crypto, n'ont évidemment pas, peuvent être en conflit d'intérêts, n'ont pas en tout cas la neutralité nécessaire pour ce que j'appellerais la neutralité des réseaux, c'est-à-dire observer le réseau Bitcoin et le réseau euro avec le même œil, à la fois critique et constructif.
Avec Paynium, vous êtes là depuis longtemps, mais vous êtes quand même très attentif aux news de l'écosystème. Preuve en est votre arrivée dans la DeFi avec le liquidity mining de votre token BCIO sur Uniswap et Balancer. C'est important de se tenir à jour ?
Oui, c'est intéressant parce qu'effectivement, on voit passer tellement d'innovations et de tendances, je dirais, qu'il faut arriver à faire le tri. Et en même temps, on ne peut pas se permettre de rater un train qui nous mettrait, je dirais, en retard par rapport à des concurrents, des nouveaux entrants qui eux, seraient montés dans le wagon. Donc, la DeFi, effectivement, ce qu'on appelle le DeFi, est un bon exemple. Pour moi, objectivement, avec un petit peu de début d'expérience que j'ai sur le secteur, je pense que c'est plus une expérimentation qu'une tendance. Il faut toujours faire la différence entre ça, les deux. C'est comme les ICO en 2017-2018, c'était plus une expérimentation qu'une tendance de fond et une tendance durable. Je pense que la même chose s'est révélée sur la DeFi, c'est-à-dire que c'est une expérimentation où on a testé un peu les limites, notamment du réseau Ethereum qui s'est un peu écroulé au mois d'août, entre nous, à cause de ça, en termes de, notamment de temps de confirmation, coût des transactions, etc. Donc, c'est normal et c'est sain que la sphère crypto, l'écosystème teste des nouvelles limites. Donc, la DeFi, à cet égard, est très, très intéressante. Donc, nous, on a décidé de le tester aussi parce qu'effectivement, il y a un vrai intérêt à traiter les choses en mode automatique, tirer parti du fait que ces monnaies sont programmables, qu'il y a un langage de programmation derrière Bitcoin, derrière Ethereum, derrière la plupart des blockchains. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas effectivement ignorer. Donc, on a décidé de s'y intéresser il y a quelques mois. Et c'est pour ça qu'on propose maintenant effectivement ces approches des problématiques de liquidité.
Petite parenthèse, mais pas des moindres, sur la sécurité de votre plateforme. Quels outils mettez-vous en place pour vous prémunir des hacks ?
Oui, alors effectivement, ça fait partie du métier, je dirais. À partir du moment où on a la garde des bitcoins de clients, on a effectivement cette responsabilité, ce challenge. Donc, alors il y a une difficulté effectivement à en parler parce que la sécurité, c'est pas quelque chose qui se vend. Ça se vend très mal. Les gens ont du mal à comprendre tous les enjeux, les difficultés opérationnelles et ils ne sont pas payés, pas forcément prêts à payer en tout cas pour la sécurité. Donc c'est un peu compliqué d'en parler de ce point de vue. Nous, on a une politique de stock, ce qu'on appelle de stockage à froid depuis très longtemps, ce que propose un peu Ledger effectivement avec son hardware wallet. Nous, on n'utilise pas de hardware wallet pour des raisons justement d'indépendance technologique. On considère que les hardware wallets sont quand même des boîtes noires contrôlées par des tiers, donc on hésite, on n'est pas à l'aise avec ça. Donc on utilise d'autres méthodes cryptographiques, je dirais de cryptographie traditionnelle, mais à la fin, c'est le résultat est le même, c'est-à-dire qu'on a des clés effectivement qui sont offline, qui n'ont pas touché de serveur et qui donc ne peuvent pas être piratées, comme on dit. Donc c'est le même principe que les hardware wallets, mais avec des technologies différentes.
Comme tu es dans la crypto depuis longtemps, tu as sans doute vu arriver Ethereum et sa montée en puissance. Le 1er décembre, la plateforme pourra commencer à se diriger vers le Proof of Stake en quittant le Proof of Work. C'est une bonne nouvelle pour l'écosystème crypto ?
Alors oui, c'est une expérimentation. C'est Proof of Stake, il faut savoir que c'est une promesse d'Ethereum depuis 2014, depuis le début. Vitalik et ses associés avaient dit que Proof of Work c'était péché et qu'il fallait être en Proof of Stake, sauf que c'était tellement évident qu'ils n'ont pas pu le faire quand ils ont lancé Ethereum, donc ils sont partis en Proof of Work pour qu'ils n'étaient pas si sûrs d'eux que ça. Et maintenant, ils basculent enfin, ils délivrent enfin la promesse effectivement d'être en Proof of Stake. Ce qui fait de leur coin, enfin de Ethereum, un coin, je dirais un peu encore plus centralisé qu'avant, puisque Proof of Stake, je l'ai expliqué de nombreuses fois, ça donne un réseau qui est forcément moins décentralisé qu'en Proof of Work. Mais il était déjà relativement centralisé du fait qu'il y a un gourou, il y a des sociétés comme ConsenSys et d'autres qui contrôlent directement ou indirectement le réseau Ethereum. Donc, c'est intéressant. De toute façon, le réseau Ethereum est une expérimentation intéressante puisqu'il pousse les limites effectivement, du concept de monnaie programmable. Hein. Ils l'ont poussé plus loin que Bitcoin. Donc, à mon avis, trop loin, puisque après, ça pose d'autres problèmes et c'est ces problèmes-là qu'Ethereum est obligé de traiter. Je pense que Bitcoin reste le bon équilibre entre monnaie programmable et monnaie décentralisée, sécurisée. Encore une fois, du point de vue de l'ingénieur, chaque fois qu'on ajoute une fonctionnalité, on dégrade la sécurité. Hein, c'est ce qu'on appelle les vases communicants. Hein. Plus on a quelque chose de rugueux, je dirais, de basique, et plus il est secure. Et chaque fois qu'on ajoute une fonctionnalité, on va introduire une vulnérabilité. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien intégrer et que les ingénieurs, en tout cas, dont les ingénieurs sont bien conscients. Donc, Ethereum, c'est quelque chose qui va très loin dans le domaine des fonctionnalités, effectivement, et de fait, à plein de vulnérabilités, et notamment cette question de la décentralisation, puisqu'effectivement, proof of stake, on va tester en vraie grandeur et en vraie valeur, puisque le réseau Ethereum a acquis une vraie valeur au fil du temps. On va pouvoir observer ce qui se passe sur le réseau Ethereum, qui est à cet égard intéressant parce qu'il est très différent de Bitcoin, en fait. Hein, du coup, il devient encore plus différent de Bitcoin. Donc, tout ce qui est différent est complémentaire. C'est ça qui est intéressant. Si c'était l'identique, par exemple, Bitcoin Cash n'apporte absolument rien. C'est ça, absolument aucun intérêt parce que c'est beaucoup trop proche de Bitcoin. Et ça fait tout en moins bien que Bitcoin. Donc, Bitcoin Cash, on voit d'ailleurs qu'il est en train de disparaître en ce moment, ça n'a aucun intérêt. Par contre, Ethereum, c'est intéressant parce que c'est différent et c'est pour ça qu'on l'observe. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a nous-mêmes un token sur Ethereum, un token ERC20 chez Paymium qui s'appelle le BCIO. Je le dis au passage pour bien montrer qu'on n'est pas du tout anti-Ethereum, mais on a un œil circonspect sur le passage en proof of stake parce que ça pose des questions sur la décentralisation. On va voir à l'usage. C'est ça qui va être intéressant. On a une expérimentation en vraie grandeur. Donc, on va vraiment tester les limites là, de proof of stake et voir quel effet ça a sur le cours d'Ethereum. L'autre différence, évidemment, c'est la quantité, la création monétaire illimitée sur Ethereum. Là aussi, alors c'est du point de vue pédagogique assez intéressant parce que la plupart des gens, souvent, ne savent même pas que Ethereum est en création monétaire illimitée. Et Proof of Stake, je pense qu'il y a beaucoup d'idées fausses aussi qui circulent sur Proof of Stake. Donc, ça va être intéressant aussi en termes d'adoption et de pédagogie, de voir comment sont appréciés ces changements, enfin, ce changement, ce passage en Proof of Stake par les gens qui s'intéressent aux cryptos, mais je dirais de manière un peu plus profane.
Quand on résume un peu l'histoire de Bitcoin, on dit qu'il a été créé après la crise des subprimes de 2008 pour bâtir un système parallèle en cas de crise mondiale. Alors, plus de 10 ans après, à l'aube de ce qui se profile comme une crise économique majeure, quelle pourrait être la place de Bitcoin et des crypto-monnaies en général ?
Oui, ben c'est clairement l'usage en réserve de valeur hein, qui est en ce moment intéressant. Pourquoi est-ce que c'est tellement intéressant en termes de réserve de valeur ? Parce que tout simplement en termes de moyens de paiement, tout est fait par les autorités pour retarder les usages en tant que moyen de paiement. Hein. Souvent, on entend… c'est un peu comme la voiture électrique, quoi. C'est sûr que si on n'adapte pas le réseau routier et la production, enfin tout l'écosystème automobile à la voiture électrique, enfin plus j'avais plus en tête la voiture autonome en fait sans chauffeur. Hein. C'est un peu comme la voiture sans chauffeur. Tant qu'on ne le fait pas, ben on verra pas de voiture sans chauffeur sans conducteur sur les routes. Donc Bitcoin c'est un peu pareil. Il faut adapter tous les moyens de paiement à Bitcoin et ça c'est quelque chose qui prend plus de temps. Par contre l'aspect réserve de valeur il a et c'est pour ça qu'il est souvent les gens disent que ça ne sert qu'à ça. Ben non, ça ne sert pas qu'à ça, mais ça, il se trouve que la transition en tant que moyen de paiement ça prend plus de temps parce que les banquiers font tout pour retarder cette adoption là. Par contre l'adoption en réserve de valeur elle est relativement simple et là ils ne peuvent pas faire grand chose. Du coup elle se fait et effectivement on voit l'effet sur le bull run par exemple qui a lieu ces jours-ci qui n'est qu'à mon avis que le début, mais on est très très loin d'avoir atteint un plateau hein, dans ce domaine, puisque si on utilise Bitcoin, ne serait-ce que comme une fraction de ce que fait l'or aujourd'hui en termes de réserve de valeur, eh bien, la valeur du Bitcoin serait bien supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, le Bitcoin a une fonction utile parce que c'est une réserve de valeur qui est accessible à, j'irais à monsieur ou madame tout le monde. Hein. L'or, c'est quand même compliqué. L'or physique, c'est compliqué. L'or papier, il ne faut surtout pas y toucher parce que là, ça peut donner lieu à toutes sortes d'escroqueries. Le Bitcoin, c'est un peu comme de l'or physique parce qu'on a physiquement, normalement, accès à ces clés privées et c'est évidemment beaucoup plus maniable que l'or physique quoi. Et surtout on peut en acheter pour n'importe quelle somme d'argent, y compris une petite somme, c'est pour ça que je dis que c'est une réserve de valeur accessible à tout le monde, parce qu'on peut mettre 100, 200 euros, 500 euros sur Bitcoin, ce qui est, c'est peut-être plus compliqué avec de l'or où il faut acheter des pièces qu'on achète cher à l'achat et qu'on vend mal, qui sont moins bien revendus en général. Dans le cas de Bitcoin, c'est l'inverse. On sait que quand on les achète, en général, on pourra les revendre quelques années plus tard dans de meilleures conditions. Je crois que l'historique du cours, c'est qu'au bout de 4 ans, personne n'a fait de moins-value sur Bitcoin. Hein. Donc, je pense qu'encore une fois, on est dans une période favorable. Au début, de l'adoption de Bitcoin, donc c'est une chance pour ceux qui en ont connaissance et qui peuvent en profiter. Et effectivement, le vrai bull run pour moi, ce sera quand les usages en termes de réseau de paiement vont se développer, ce qui se fera inéluctablement, mais qui prend plus de temps parce que plein d'obstacles sont dressés par ceux qui tiennent les réseaux de paiement traditionnels aujourd'hui.
Merci beaucoup Pierre d'avoir répondu à toutes nos questions. J'espère que cet échange vous aura plu. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à vous plonger dans les lectures des livres de Pierre qui sont passionnants ou d'aller faire un tour sur la plateforme Paynium. Dans le prochain et dernier épisode, nous recevrons Sébastien Borger, cofondateur du jeu The Sandbox. D'ici là, restez curieux et connectez au site de cryptost.fr pour être à l'affût de toutes les dernières news crypto.